VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Nous sommes le mardi 10 septembre 2019. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. En direct de Washington, je suis Irene Hermanongbo en compagnie de
Michel Joseph.
Nous avons le plaisir de vous présenter cette édition dont voici les titres.
Au Burkina Faso, 6 gendarmes ont été tués hier à Inata. Nous en parlerons dans ce journal.
Tension à Tombouctou et à Ménaka au Mali. Les manifestants dénoncent les mauvais états des voies d'accès, souvent à l'origine de l'insécurité.
Saltan. Pour le Premier ministre britannique, les députés ont rejeté la tenue des élections anticipées, tant voulue par le successeur de Theresa May.
Ne manquez surtout pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, mais avant tout le journal.
Au Burkina Faso, la situation sécuritaire s'est nettement dégradée ces derniers jours. Selon plusieurs sources, au moins 6 gendarmes sont portés disparus. Ont-ils été tués ou sont-ils encore en vie? Rien n'est encore confirmé. Cette nouvelle intervient au lendemain de la mort de 29 civils tués dans le nord du pays. De Ouagadougou, on fait le point avec Lamine Traoré.
Au moins 6 gendarmes étaient portés disparus dans le Sahel depuis lundi, a confié à VOA Afrique une source sécuritaire haut placée. Aux dernières nouvelles, 2 auraient été retrouvés lundi soir. Mais certaines sources sécuritaires soutiennent que les 6 gendarmes ont été tués. En l'absence d'un bilan officiel, reste toujours dans le flou, près d'une journée après l'embuscade contre un convoi militaire. Selon les faits, les gendarmes appartenant au détachement d'Inata, dans le Sahel, revenaient d'un ravitaillement près de Djibo, toujours dans la même région, lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade, indiquent les mêmes sources sécuritaires. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, plusieurs centaines de personnes ont manifesté lundi pour protester contre l'insécurité et les assassinats à Bandiagara. Les manifestations de Tombouctou et Ménaka sont liées à l'insécurité et la situation des mauvais états et de la mauvaise état des routes ou souvent inexistantes. Kassim Traoré.
Nous voulons cultiver nos champs, vivre la paix au pays Dogon, non aux arrestations illégales. C'est ce qu'on pouvait lire sur les banderoles des manifestants de Bandiagara. Nous sommes sortis pour demander l'arrêt total du désarmement forcé, protester contre le bombardement des camps de Dana Amasagou, la sécurisation du pays Dogon et la mobilisation contre la faim, nous indique Aminata Nantoumé qui faisait partie de cette marche. À Ménaka comme à Tombouctou, les jeunes demandent la sécurité sur la route, la construction de la route Ansongo-Ménaka et Ménaka-Andraboukane. L'arrêt des travaux de construction de la route Gomakura-Léré-Tombouctou est la principale cause de la révolte des jeunes de Tombouctou qui ont bloqué l'aéroport de la ville. À cause de ces manifestations, le gouvernement a animé un point de presse. Yaya Sangaré, ministre porte-parole du gouvernement.
L'obligation de redevabilité est une raison d'État à laquelle le gouvernement du Dr Bobo Cissé ne se soumet. Mais dans un contexte de rarité des ressources, le gouvernement n'a pas les moyens et ne peut satisfaire tout et tout de suite.
Dans la ville de Gao aussi, les jeunes préparent une grande mobilisation ville morte le vendredi prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Après une semaine de violences xénophobes en Afrique du Sud qui ont fait 12 morts, le Nigeria va rapatrier quelques 600 de ses ressortissants. Le point avec Ekia Badou.
Après 3 jours d'accalmie, de nouvelles violences ont éclaté dimanche dans plusieurs quartiers de Johannesburg. Au moins 2 personnes ont été tuées, portant le bilan à 12 morts. Plusieurs commerces tenus par des étrangers ont été pillés. Dans sa 3e intervention en moins d'une semaine, le président Cyril Ramaphosa a assuré que son gouvernement ne laisserait pas l'anarchie et la violence s'installer. Il a rappelé que la majorité des étrangers respectent la loi et ont le droit de vivre en paix. En réaction, la présidence nigériane à Abuja, après avoir reçu son émissaire spécial à Pretoria, dit avoir donné les instructions nécessaires pour l'évacuation immédiate de tous les Nigérians qui souhaitent rentrer à la maison. Le consulat nigérian à Johannesburg a annoncé que 600 personnes environ sur plus de 100 000 Nigérians vivant en Afrique du Sud doivent être rapatriés à partir de demain mercredi.
Au Cameroun, le premier vice-président du parti de l'opposant Maurice Kamto, Mamadou Mota, a été condamné hier à 2 ans de prison ferme pour son implication dans la mutinerie du 22 juillet à la prison centrale de Yaoundé, où il était écroué depuis juin. Ma condamnation est purement politique, je ne suis pas un rebelle. Lors de la mutinerie de la prison, j'avais été appelé par le régisseur pour apaiser les détenus. La plupart des anglophones a protesté, monsieur Mota.
Nous allons interjeter appel de ce jugement car aucune preuve n'a été apportée pour soutenir l'accusation, a annoncé Maître Emmanuel Sim, avocat des condamnés du MRC. 12 autres personnes, dont un leader anglophone, Mancho Bibixi, ont écopé de la même peine. 2 autres ont été condamnés à 3 ans de prison dans le cadre de la même affaire.
Soudan du Sud, le rebelle Riek Machar est arrivé hier à Djouba, la capitale. Il a rencontré le président Salva Kiir. Les deux personnalités ont discuté de paix et des conditions de sécurité. Notre réunion s'est concentrée sur les arrangements de sécurité parce qu'il s'agit d'une des dispositions fondamentales de l'accord de paix signé en 2018, a déclaré l'adjoint de Machar, Henri Audouard, après la rencontre des deux hommes. Il y a des défis et nous prions pour les surmonter, a-t-il indiqué.
Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les deux hommes assis à la même table et Kiir serré la main de Machar. Machar, qui vit en exil à Khartoum, est arrivé dans un avion soudanais précédé par 2 autres appareils transportant une large délégation d'une 60aine de personnes.
En Guinée équatoriale, 2 journalistes de l'unique chaîne de télévision privée du pays détenus depuis 12 jours au commissariat de la capitale économique Bata ont été libérés dimanche, sans charge a annoncé lundi l'un d'entre eux.
Mélanio Nkogo et Ruben Dario Bakale, tous deux journalistes de la télévision Asanga, avaient été arrêtés le 27 août dernier, mais aucune charge n'a été retenue contre eux et la nature des faits qui leur sont reprochés n'a pas été précisé par la police. Le week-end précédent, leur arrestation fin août, Asanga TV avait diffusé une interview réalisée par les deux journalistes avec un juge du tribunal d'instruction de Bata, Nazario Oyono, qui avait été suspendu de ses fonctions quelques jours auparavant.
La justice marocaine a décidé hier de renvoyer au 16 septembre le procès pour avortement illégal d'une journaliste marocaine avant de rejeter sa demande de liberté. Attar Haoussini, 28 ans, reporter du quotidien arabophone Akbar Al-Yaoum, risque jusqu'à 2 ans de prison au terme du code pénal marocain qui sanctionne l'avortement quand la vie de la mère n'est pas en danger.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Les députés britanniques ont infligé une nouvelle défaite cuisante au Premier ministre Boris Johnson, rejetant la tenue des législatives anticipées. Boris Johnson a toutefois affirmé aujourd'hui qu'il ne demanderait pas un nouveau report du Brexit, malgré le vote de la loi l'obligeant à solliciter auprès de l'Union européenne un report de 3 mois du Brexit si aucun accord n'est trouvé avec Bruxelles avant le 31 octobre. Les précisions avec Jean-Roger Billon.
Avec 293 voix pour, loin des 2/3 des sièges requis pour déclencher des élections générales, les députés ont mis en échec pour la 2e fois en 5 jours la proposition de Boris Johnson qui voulait que les électeurs soient appelés aux urnes le 15 octobre. Boris Johnson semble avoir perdu le contrôle sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais pour lui ce n'est qu'une bataille de perdu. Le chef de file de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a déclaré pour sa part que le Labour veut participer à des élections, mais pas avant qu'un report du Brexit ne soit validé. Boris Johnson entend présenter de nouvelles propositions à l'Union européenne. Il a par ailleurs indiqué que les négociations progressent avec Bruxelles. L'un des principaux points d'achoppement des discussions concerne le filet de sécurité censé empêcher le rétablissement de contrôle à la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord.
La Corée du Nord a tiré ce mardi 2 nouveaux projectiles quelques heures après avoir proposé aux États-Unis de reprendre fin septembre les négociations sur son programme nucléaire au point mort depuis février. Les 2 projectiles ont été lancés à l'aube depuis la province de Pyongyang du Sud dans le centre du pays en direction de la mer Rouge, a indiqué l'état-major sud-coréen sans plus de précision.
Le terme projectile est habituellement employé par l'armée sud-coréenne pour qualifier des missiles à courte portée nord-coréens. Un haut responsable du gouvernement américain a indiqué avoir été informé de ces nouveaux tirs et assuré que Washington suivait la situation de près avec ses alliés dans la région. Ce nouvel essai d'armes est intervenu quelques heures après que le régime nord-coréen eût affirmé être prêt à reprendre les négociations avec les États-Unis.
À présent, passons à l'actualité économique sur le continent et c'est avec Nanit Talani.
L'un des plus gros fournisseurs zambiens d'intrants agricoles, African Green Resources, envisage d'investir 150 millions de dollars au profit des agriculteurs locaux. 5,5 millions de dollars iront à l'expansion du silo ou stockage à grains de céréales qui devrait atteindre les 105 000 tonnes d'ici 2021-2022 au lieu de 28 000 tonnes actuellement. 20 millions de dollars serviront à développer un barrage d'irrigation de 80 millions de mètres cubes, alors qu'entre 42 et 45 millions iront à l'extension d'une centrale solaire de plus de 50 mégawatts et le reste à d'autres projets. Plus de 50 000 petits agriculteurs auront aussi accès aux intrants agricoles et aux technologies appropriées à des prix abordables. Equity Group, un groupe bancaire kényan, est en pourparlers avec certains actionnaires de la Banque commerciale de la République démocratique du Congo en vue d'y acquérir une participation majoritaire en numéraire et renforcer son expansion en Afrique. Cette alliance devrait donner naissance à la deuxième plus grande banque de la RDC avec un actif de plus d'un milliard de dollars. Pour terminer cette minute éco, le PDG de Nissan, Hiroto Saikawa, va démissionner le 16 septembre suite à la pression résultant de son aveu la semaine dernière d'avoir été indûment surpayé à hauteur d'environ 440 000 dollars. Il a promis retourner l'indemnité inappropriée et sera temporairement remplacé par le chef des opérations, Yasuhiro Ramauchi. Hiroto Saikawa avait été chargé de remplacer le constructeur automobile Nissan après l'arrestation et l'éviction de son ancien président Carlos Ghosn l'année dernière sur fond d'accusation d'inconduite financière.
Place à présent au sport, nous retrouvons le sportif Maison Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Eman, bonjour à tous.
Match retour ce soir des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, après son match nul 1-1 à domicile, le Maroc fera face au Mali ce soir à Bamako pour la rencontre retour. Un match nul pas rassurant pour le coach Patrice Baumel.
Pas le meilleur des résultats, ceci dit, c'est comme si c'était un 0-0. Il nous faudra marquer à Bamako et pas encaisser de but. L'équipe du Mali a une certaine maturité, ce sont des joueurs qui se connaissent, on le voit dans les mécanismes, les automatismes. Mais on a un match retour et on va vendre très cher notre peau parce que il y a eu quelques messages sur le terrain deuxième mi-temps. Il va falloir y aller, faire un match d'homme. Et je pense que les garçons, sur la deuxième mi-temps, ils ont vu qu'il faut être des hommes de la première mi-temps à la deuxième.
Patrice Baumel au micro d'Amine Birouk, notre correspondant au Maroc. Dans les autres rencontres, toujours ce soir, le Nigeria voudra refaire son retard à domicile devant le Soudan, vainqueur 1-0 à l'aller. Opération confirmation pour l'Afrique du Sud en déplacement au Zimbabwe, battu 5-0 à l'aller. Avance pour la Guinée victorieuse face à la Côte d'Ivoire à Abidjan 1-0. Le Cameroun sera en Tunisie avec un but d'avance sur les Tunisiens, défait 1-0 à Yaoundé. Rien n'est encore joué entre l'Algérie et le Ghana après le match nul 1-1 à Accra. La compétition se déroulera en Égypte en décembre.
Toujours ce soir, on aura les préliminaires du Mondial 2022.
10 dernières affiches au programme dont Togo, Comores, Soudan, Tchad et Rwanda, Seychelles. Le week-end écoulé s'est passé pour l'Éthiopie après un match nul, un but partout au Lesotho. Pour la Guinée équatoriale également qui a dominé le Soudan du Sud 1-0 et pour le Libéria, pourtant battu 1-0 en Sierra Leone. Les Lone Stars avaient remporté le match à l'aller 3-1. Le Burundi a été éliminé après les tirs au but en Tanzanie.
La Grèce du MVP de la NBA éliminée du Mondial de basket.
La Grèce de Giannis Antetokounmpo ne verra pas le top 8 du mondial de basket après sa victoire insuffisante sur la République tchèque, 84-77. Les Grecs avaient besoin de l'emporter de 12 points d'écart pour passer, mais c'est raté. Les quarts de finale opposeront aujourd'hui l'Espagne à la Pologne et la Serbie défiera l'Argentine. Demain, les États-Unis affronteront la France et l'Australie, la République tchèque.
Athlétisme, Habib Cissé banni à vie.
L'ex-conseiller de l'ancien président de l'IDEUSAF a été banni à vie de l'athlétisme par le comité d'éthique de la Fédération internationale d'athlétisme pour son implication dans un supposé système de corruption sur fond de contrôle positif d'athlètes russes. Habib Cissé était le conseiller juridique de Lamine Diack, président de l'IDEUSAF entre 1999 et 2015, accusé d'être au cœur d'un système de corruption au sein de la Fédération qui permettait à des athlètes russes contrôlés positifs de payer pour que leur cas soit retardé ou étouffé.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Irune Hermanongo, place à présent au dossier du jour. Au Burkina Faso, les attaques terroristes se sont multipliées ces derniers jours. Entre dimanche et hier lundi, au moins 35 personnes ont été tuées dans des attaques djihadistes dans le nord du pays. Ces attaques ont provoqué des exodes de populations, notamment dans le nord. La seule ville de Djibo, par exemple, accueille plus de 50 000 déplacés internes. Oumarou Diko est député maire de Djibo. On écoute ses explications.
Nous avons plus de 50 000 déplacés. C'est des déplacés internes de la province même. Ceux qui ont quitté les villages et la commune de Djibo, qui sont à Djibo. Il y en a qui ont quitté la commune de Diguel, qui sont à Djibo. La commune de Tongoma, qui sont à Djibo. La commune de Baraboulé, qui sont à Djibo. Arbinda, Pobé Menga, Koutoukou, qui sont à Djibo. Et il y a certains réfugiés aussi qui étaient déjà réfugiés maliens, mais eux, ils sont aussi un site de réfugiés.
Et est-ce que vous avez assez d'infrastructures pour les accueillir? Est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions?
Nous n'avons pas d'infrastructures, mais je trouve qu'il y a des enjeux qui essaient de faire quelque chose, notamment à la Croix-Rouge, il y a le HR, qui essaie de mettre en place des infrastructures. Pour en tout cas les soutenir.
Alors, on sait que généralement, dans ce genre de groupe de déplacés, il y a beaucoup d'enfants. Et là, c'est la rentrée des classes. Comment cela va se passer?
Ah, vraiment, c'est un danger. Comme quelqu'un le disait, qu'un enfant qui va vivre dans un camp de déplacés, quand il va grandir, ce serait une bombe à retardement. Maintenant, on est en train de voir comment on va faire pour créer des classes supplémentaires. Nous essayons de renforcer les écoles déjà existantes. On les renforce. Et les quartiers centraux qui sont accessibles, nous allons essayer de faire, même si c'est des temps, nous allons demander aux partenaires des temps pour ouvrir des écoles par commune ou bien par village. Voilà. Nous allons essayer de faire ça si c'est à Dieu.
Ces gens qui sont arrivés à Djibo, quel genre d'histoire ils vous racontent? Qu'est-ce qui se passe dans leur localité?
Ce qui passe dans les localités, c'est que ces terroristes la partent là-bas et les chassent. Il y en a qui ont commencé à cultiver leur champ, s'aimer, faire la première labour jusqu'au le bilan, ils les ont chassés. Voilà, les champs sont là, les gens n'ont pas cultivé. Et c'est ça même le danger. Parce que si vous n'avez pas à manger aussi, c'est une autre forme de crime.
Alors, on avait parlé en grande pompe de ce programme d'urgence pour le Sahel. Parlez-nous de l'aide que l'État apporte à Djibo, mais aussi à toute cette région-là.
À ma connaissance, pour le moment, le programme d'urgence Sahel, moi, je n'aime pas en parler parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Vous trouvez que l'État ne fait pas suffisamment?
Il ne fait même pas. Il n'est pas suffisant. Il ne fait même pas fait.
Et sur le plan sécuritaire, est-ce qu'on sent des renforts à Djibo, mais aussi dans toute la zone?
Pour le plan sécuritaire, Dieu merci, en tout cas, il y a des renforts. En ce qui concerne le Djibo, vraiment, nous sommes très contents. La sécurité, les forces de défense sont en train de travailler. Ça se passe bien actuellement.
Oumarou Diko, député maire de Djibo, joint par Bagassi Koura.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
À Dakar, les fortes pluies du mois de septembre ont de nouveau provoqué l'inondation de certaines parties de la capitale sénégalaise. Plusieurs quartiers sont envahis par les eaux après chaque pluie, une situation qui dure depuis plusieurs années causant de nombreux désagréments aux habitants. Sidina Bagaye, notre correspondant à Dakar de sa barque, s'est enquéri de la situation des sinistrés. Voici son reportage.
Après la pluie, ce n'est pas le beau temps à Dakar car les populations sont souvent envahies par les eaux. Dans la banlieue dakaroise, c'est une situation qui dure depuis plusieurs années. Nongodia liste les conséquences de ces inondations qui peinent à être résolues.
Ça, c'est une grande marée. On peut l'appeler même un marigot. Ça, c'est très dangereux. Non seulement il y a les moustiques qui vont infecter ici pour créer le paludisme. Ensuite, les petits enfants peuvent y noyer. Bon, ce matin, lorsque je partais au travail, j'ai trouvé qu'il y a une calèche avec le cheval. Bon, depuis le régime précédent,
du président Abiy, je voyais ça. Ça a eu plus de 50 ans.
Certains chefs de famille voient les eaux envahir leur domicile et y causer d'énormes dégâts. Abdoulaye confie qu'il a failli perdre la vie à cause d'une défaillance électrique.
L'eau est entrée quand nous avons ouvert la porte de la maison. Partout où c'était de l'eau, le compteur de la maison a pris feu. J'ai été même blessé par les flammes. Vous avez vous-même vu de vos propres yeux. C'est très dangereux.
Le manque d'aménagement et d'assainissement est la principale cause des inondations dans Dakar et sa banlieue, une situation qui est due aux constructions anarchiques de certaines zones, selon Omar Cissé, ingénieur civil et environnementaliste.
Les difficultés liées à l'aménagement, c'est normal. C'est des zones où la production urbaine a été populaire informelle. Il y a eu un cycle de sécheresse et des cycles de retour, peut-être forcément, des populations qui se trouvent dans des dépressions humides deviennent inondées.
Les bassins de rétention construits dans la banlieue sont des solutions temporaires, mais il faudrait des investissements plus conséquents pour résoudre définitivement le problème des inondations.
Aujourd'hui, du travail important a été fait dans la banlieue. Des bassins ont été aménagés, des canaux ont été aménagés. Elles ont sorti quand même, nous l'avons prouvé dans nos travaux. Nos analystes spatiales ont montré que dès leurs implantations, ces ouvrages ont sorti, ont libéré certaines bonnes parties du territoire de l'eau. Mais nous ne nous y trompons pas. On ne peut pas régler définitivement la question du drainage des eaux pluviales si on ne prend pas en compte la question de l'assainissement des eaux usées, si on ne prend pas en compte la question de la gestion des ordures ménagères.
Au Sénégal, le gouvernement a investi des dizaines de milliards dans différents programmes pour gérer les inondations dans Dakar et sa banlieue. Mais malgré les efforts des autorités, les populations continuent de souffrir après chaque goutte de pluie. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Direction le Kenya, la découverte du crédit pour risque éventuel, une initiative d'un organisme basé à Washington. Elle permet aux agriculteurs de bénéficier de prêts assurés qui les aident à acheter des intrants et des semences. Contrairement à d'autres prêts de banques commerciales, ces emprunts leur permettent aussi de se protéger des pertes résultant des mauvaises récoltes causées par le changement climatique. Le point avec Lionel Gaïm.
Ces quatre dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de pluie sur le comté de Machakos. Les agriculteurs ont été désespérés. Le changement climatique a eu l'effet sur les cultures et les a appauvris. Ils ont été contraints de s'approvisionner sur les marchés au lieu de vivre de leurs récoltes. L'aide est arrivée en 2017, juste avant une nouvelle sécheresse sous la forme d'une facilité de prêt surnommée le dispositif de risque subsidiaire. C'est l'idée originale de l'Institut international de recherche de politique alimentaire IFPRI. Lin Zhu Yu est responsable de ce projet.
Quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. Les agriculteurs ne peuvent pas rembourser les emprunts. Bien sûr, avec les pluies, vous avez une bonne récolte, vous devez payer vos dettes avec une prime d'assurance.
Pour Esther Muiruri, directrice de la Equity Bank à Nairobi, c'est différent de pratiques traditionnelles des banques commerciales qui évitent de faire de prêts à des petits agriculteurs.
So for one acre,
pour un ar, nous leur donnons environ 10 000 shillings kenyans, soit 97 dollars américains, pour qu'ils puissent acheter des engrais, des semences et autres produits dont ils ont besoin pour leur culture.
Les agriculteurs reçoivent ces prêts après avoir suivi une formation en agronomie, ainsi que de cours d'alphabétisation et dans le domaine des finances. Béatrice Ndavi a pris le premier prêt et fait partie de 265 agriculteurs qui ont contracté un deuxième emprunt cette semaine.
Avant que les banques ne commencent à nous accorder des prêts, la production était très faible car nous utilisions uniquement du fumier. En revanche, lorsque nous avons commencé à utiliser ces engrais, la production s'est améliorée.
Le projet est encore en sa phase pilote, mais il est prévu de le reproduire dans d'autres pays africains.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM, sur VOA Afrique.
Ici, aux États-Unis, une agence de surveillance du gouvernement fédéral indique que les enfants migrants séparés de leurs parents à la frontière américano-mexicaine l'année dernière ont souffert d'une profonde détresse, de sentiments d'abandon et d'autres problèmes de santé mentale graves. Eric Manirakiza nous faire le point.
Le bureau de l'inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux fonde son rapport sur des entretiens avec environ 100 agents de santé mentale qui ont eu des échanges avec les enfants séparés. Selon les gardiens, certains enfants pleuraient de manière inconsolable, d'autres étaient en colère et confus, croyant avoir été abandonnés par leurs parents. Le docteur Louis Krauss est le chef de psychiatrie infantile au centre médical de l'université Rush.
Même avec de petites périodes d'absence, vous pouvez être affecté constamment. Mais de plus longues périodes d'absence, de plus longues périodes de traumatisme, de plus longues périodes de négligence vont probablement avoir des répercussions permanentes et une symptomologie pour ces enfants qui vont potentiellement être bouleversés tout au long de leur vie.
Les enfants ont été séparés de leurs parents à partir de 2017, mais officiellement reconnu en avril 2018 sur ordre du ministre de la Justice de l'époque, Jeff Sessions. Il avait appelé à la tolérance zéro à l'égard des migrants qui tentent d'entrer illégalement aux États-Unis. Mais après un tollé national et international, le président Donald Trump a abandonné cette politique de séparation quelques semaines plus tard. Le gouvernement a par la suite reconnu que plus de 700 enfants avaient été séparés de leurs parents depuis 2017 dans des conditions toujours difficiles à la frontière. Trump a fait de la protection de la frontière et de la politique de lutte contre l'immigration illégale la marque de son mandat. Il a promis de prolonger considérablement le mur à la frontière comme stratégie pour sa campagne de réélection en 2020.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land, yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Irene Herman Ongbo à Washington. Bonne journée à toutes et à tous. Je vous laisse dans l'unité. Restez toujours unis.
To our father's land, yeah. How good and how pleasant.